Et l'idée de la sécurité sociale d'alimentation, c'est un outil financier, en fait, pour permettre cette transition vers quelque chose de désirable au niveau écologique, mais aussi soutenable à la fois par les producteurs.
La caisse d'alimentation, ça n'a rien à voir avec toi, en fait.
Mais que se passe-t-il? C'est une belle entrée en matière.
On va voir ce qui se passe à côté.
Après, on pourrait faire la pub de la sécurité sociale de l'alimentation.
Ouais, grave. C'est toujours ça, en fait, c'est un clin d'œil pour faire de la pub. Alors attends, je comprends pas. Tu sais quoi, on remet le générique, on fait genre ce qu'on vient de vivre ensemble, ce n'est qu'une illusion. Bon, ça c'est génial, je suis sûr on le connaît. Non. On va voir ce qui se passe. Dans la nuit éternelle, emportée sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible.
Salutations! C'était le bon générique ça. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 de la bande FM, c'est la voix du main qui commence. Aujourd'hui, une émission qui va parler RAP, de résistance à l'agression publicitaire et de la table ronde qui aura lieu les 15 et 16 juin à la base. Allô la base, allô la base. Alors pour nous en parler, je reçois Alice Carré. Bonjour, bienvenue au MAG.
Bonjour.
Petite précision, la base c'est où? C'est au 141 avenue de l'Espinet, tu confirmes?
Oui, c'est ça. Donc c'est vers Montaudran.
Vous organisez donc avec le RAP un week-end autour de la publicité avec des ateliers, des conférences, des actions et une soirée. Alors les thématiques tourneront autour du publisexisme, de la réglementation juridique, de la pub automobile ainsi que des produits animaux qu'on peut appeler également publispécisme.
Oh,
trop fort. Non, franchement, on a bien fait de pas répéter, il n'y a pas besoin. Et on est trop bon. Alors écoute, avant de parler du programme là, de ce week-end, est-ce que tu pourrais présenter rapidement l'association en quelques dates, le RAP?
RAP, Résistance à l'agression publicitaire, ouais. C'est une association qui va fêter ses 32 ans cette année. Elle a été fondée en 1992 et donc elle a pour but la lutte contre la publicité sous toutes ses formes. Donc que ça soit dans la rue, sur internet, à la télévision, dans les journaux, les prospectus. Donc il y a vraiment, enfin on voit à quel point notre vie elle est conditionnée par la publicité puisqu'il y a vraiment énormément de moyens de faire de la publicité actuellement. Alors RAP, il y a un niveau national, donc notamment avec 4 salariés. Et puis après il y a des groupes locaux partout en France qui mènent des actions et des campagnes de terrain, notamment sur les règlements locaux de publicité dans les mairies ou alors sur d'autres actions type sensibilisation à la publicité, action de désobéissance civile. Donc au niveau national, c'est beaucoup des campagnes de plaidoyer. Il y a du lien aussi avec les députés, les élus qui se fait un peu plus. Et au niveau groupe locaux, en tout cas à Toulouse, on reste plutôt sur de l'action.
Ouais, vous êtes connu un petit peu pour ça, identifié comme ça, faire des actions.
C'est ça, des actions qui peuvent être des actions de recouvrement, d'artivisme. Mmh. Donc artivisme, c'est faire de l'art finalement avec la publicité. Donc on peut par exemple avoir des affiches de publicité et les détourner d'une manière plus sympa pour parce que nous justement on préférerait aux panneaux publicitaires qui sont dans la rue de l'art, de l'information. Voilà, enfin il y a quand même pas mal de choses à faire autres que ça ou alors des arbres. Et sinon au niveau national, il y a aussi quelques campagnes en fait qui sont lancées. Il y a une campagne notamment sur le sexisme actuellement, mais on y reviendra un peu plus tard. Il y a une campagne aussi sur les pubs climaticides, mais on va sûrement en reparler également. Et de temps en temps, voilà, on lance un peu quelques campagnes. Il y a aussi cette année un gros morceau avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc les JOP.
Et toi, perso, qu'est-ce qui t'a incité à rejoindre cette association et à t'engager dans cette lutte contre la publicité qui n'est pas que, comme on va le voir, de l'industrie de promotion de l'industrie?
Alors moi, j'ai rejoint l'asso en 2016. En fait, c'est très simple. Enfin, c'est un peu bateau mon explication, mais il y a un dimanche matin où je m'ennuyais un peu. Donc je me suis dit, je vais regarder sur Demosphère qu'est-ce qu'il y a comme proposition. Et je suis tombée sur justement une action anti-pub. Et donc j'ai découvert la lutte anti-pub. Et ça m'a vraiment pris pris au corps et au cœur finalement, parce que c'est une lutte qui recouvre énormément de luttes. On en a parlé tout à l'heure, il y a le sexisme, il y a le spécisme, peut-être un peu, on pourra en évoquer rapidement le racisme finalement, la domination, enfin on voit que la pub elle est vraiment très néfaste, et surtout c'est l'outil du capitalisme, et moi ça m'intéresse vraiment d'aborder les choses d'une manière assez globale, et de pouvoir lutter sur différents aspects. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse aussi. Et puis, il y avait à la fois d'assaut, il y a à la fois du concret, du terrain, des actions. Donc ça, j'aime bien ce côté-là, de pouvoir mener des actions. Et puis, il y a aussi tout un côté un peu juridique et un peu mener des campagnes, sensibiliser des élus aussi. Donc, je trouvais ça intéressant d'agir à ce niveau-là.
Ouais, c'est vraiment ultra concret. C'est un peu comme mettre des lunettes qui révélerait une réalité qui est sous nos yeux, mais qu'on ne percevrait pas forcément, en fait. Toi, il n'y a pas un exemple précis de publicité, parce que bon, on va faire du drop naming de toute façon tout au long de cette émission, ou un slogan qui, d'un coup, t'a fait réaliser que la publicité est au carrefour, comme tu le disais, de plein de luttes. Ça a un impact quand même concret sur nos imaginaires.
Oui, alors moi, j'ai vraiment beaucoup d'exemples. Je pense notamment à une action où il y avait des publicités pour de l'alcool. Enfin, je sais plus ce que c'était, mais en tout cas, il y en avait vraiment partout. Et bon, moi j'aime bien prendre l'apéro avec des copains et tout, il n'y a pas de problème, mais c'est juste voir tout cet étalage, alors que finalement, l'alcool, c'est quand même une drogue, c'est un problème de santé publique. Et en fait, on nous met ça sous les yeux en permanence. Je trouve ça vraiment incroyable, en fait, au niveau de la santé, et de promouvoir ça à ce point. En fait, il y a un slogan très simple, c'est « on met la pub nous saoule ». C'est très accrocheur, je trouve, en tout cas. Après, je pense à une autre forme de publicité, c'est celle où il y avait des frites de McDo et on voit juste un hamburger ou des frites.
Y a même
et
en fait,
il voilà, y a même pas le nom de la marque, parce que tout le monde a associé dans son esprit que c'était McDo. Et c'est incroyable, parce que quand les publicitaires sur les affiches ne mettent plus le nom de la marque, ça veut dire qu'ils ont réussi à ce point à intégrer notre inconscient.
Non, c'est complètement flippant, mais c'est aussi le résultat de milliards de dollars dépensés par an. Là, tu parles de McDo, je vois Coca dépensait 1,7 milliard d'euros par an. Donc, c'est aussi le résultat quand même d'une stratégie quasi militaire d'occupation de l'espace, des esprits.
C'est ça. Du coup, c'est le deuxième budget mondial après la défense. Voilà, on voit les priorités. Hein. Ouais. Il y a un film super que je recommande qui s'appelle Propagandia, et qui parle notamment d'Edouard Bernays, qui est un peu le père moderne de la publicité.
Bernays était un publicitaire américain né en Autriche, et Bernays est considéré comme le père fondateur de la propagande politique et industrielle moderne. Il a mis au point de célèbres techniques de manipulation de l'opinion, des techniques qu'il a décrites dans l'un de ses ouvrages les plus connus, Propaganda, sous-titré « Comment manipuler l'opinion en démocratie ?» Parce que voilà un homme qui fait partie de la grande machine du pouvoir économique et qui fournit littéralement le mode d'emploi de la domination idéologique et de la manipulation de l'opinion en démocratie. Bernays conseillait les hommes politiques et les grands industriels. Pour lui, la démocratie, c'est d'abord un régime dans lequel une minorité éclairée, une minorité intelligente, doit modeler l'opinion publique pour le bien de la société. Donc la démocratie n'est pas le lieu du pouvoir du peuple. La démocratie, c'est le régime dans lequel on manipule l'opinion du peuple au lieu de le contraindre. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'une démocratie, c'est une dictature mature, c'est une dictature aboutie, puisque c'est un régime dans lequel on va chercher à influencer plutôt qu'à imposer. Le peuple a l'impression de garder la main sur ses opinions. Il a l'impression de garder la main sur sa liberté. L'art de la propagande d'Edward Bernays permet justement de maintenir le peuple dans la domination sans que ce peuple ne soit conscient d'être manipulé. Ce qui veut dire que pour comprendre la pensée de Bernays, il va falloir abandonner nos croyances angélistes sur la démocratie et accepter l'idée que ceux qui détiennent le pouvoir ne travaillent pas pour les intérêts du peuple, mais pour leurs propres intérêts.
Il y a une de ces actions un peu célèbres qu'on peut citer, notamment sur la cigarette.
Ouais, pour les femmes,
voilà,
c'est ça.
Pour les femmes. En fait, il s'est dit comment agrandir le marché. Ah bah tiens, les femmes ne fument pas, et bah si on leur ouvrait la possibilité de fumer, parce que c'était interdit pour les femmes à l'époque de fumer, et il s'est dit, ah bah tiens, on va faire la promo de femmes qui fument, on va les mettre en scène et tout, et ça va donner une part de marché beaucoup plus importante.
Dans les années 20, Bernays a été mandaté par la firme de tabac Lucky Strike afin d'augmenter ses ventes. Et c'est là qu'il a mis au point une stratégie aussi perfide qu'efficace, qui consistait à persuader les femmes de se mettre à fumer. À l'époque, les fumoirs étaient encore réservés aux hommes, et les seules femmes qui fumaient étaient essentiellement les prostituées. Donc la stratégie de Bernays, c'était de modifier la perception, de modifier la représentation de la cigarette chez les femmes. Parce que Bernays était parfaitement conscient que nos actions étaient d'abord liées à la manière dont on se représentait symboliquement une pratique. Il est évident que si une pratique est stigmatisée, si elle est déconsidérée dans l'opinion, bien c'est beaucoup plus difficile de l'assumer. Donc qu'a fait Bernays ? Il a organisé une manifestation lors du dimanche de Pâques à New York en 1929, une manifestation composée de femmes qui étaient rémunérées pour défiler, et qui arborait une cigarette à la main, ainsi que des pancartes sur lesquelles il était écrit « Torche de la liberté ». Et ça, c'est quelque chose qui est absolument crucial si on veut comprendre la mécanique de la manipulation. C'est que le principe de la manipulation de l'opinion, c'est d'accoler à une pratique une représentation symbolique. C'est d'associer à un usage une signification qui va permettre de légitimer cet usage, voire de le promouvoir socialement. Et donc à travers cette manifestation, la cigarette n'était plus vue comme un signe de vulgarité, elle était vue comme un symbole de conquête de l'émancipation. Autrement dit, il ne s'agissait pas simplement de vanter les vertus de la cigarette en tant que telle, c'était de dire qu'une femme qui fumait était une femme qui se réappropriait sa liberté. Une femme qui fumait devenait une révolutionnaire. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace parce qu'à ce moment-là, on ne s'adresse plus simplement à la raison, on s'adresse aux représentations inconscientes. On s'adresse aux symboles, aux archétypes. Et on substitue à la fonction de l'objet sa représentation symbolique.
Oui, c'est vraiment incroyable toute la stratégie qu'il a développée. Il a commencé finalement à faire un peu comme des lobbies en allant voir les médecins parce qu'il fallait vendre du bacon, je crois, à un autre moment. Ça, ouais. Et en fait, il est allé voir des médecins pour qu'ils disent « c'est vraiment bon d'en manger dès le petit déjeuner pour la santé ». Et après, il y avait des spots qui disaient « regardez comment on est heureux à manger notre charcuterie au petit déjeuner ». Et en plus, c'est recommandé par les médecins. Là, on est vraiment en plein sur tout ce qu'on peut dénoncer en termes de lobbying et puis finalement d'achat des voies scientifiques qui se produisent sur d'autres types de phénomènes, type pesticides ou autres.
Ouais, parce qu'on va le voir, là on parle quand même de manipulation. Lui, il a étudié les axes liés à la propagande. Il a été aussi impliqué dans des dictatures politiques.
In reality, R. Benz was a democratic socialist with no links to Moscow. But Bernays set out to turn him into a communist threat to America. He organized a trip to Guatemala for influential American journalists. Few of them knew anything about the country or its politics. Bernays arranged for them to be entertained and to meet selected Guatemalan politicians who told them that R. Benz was a communist controlled by Moscow. During the trip, there was also a violent anti-American demonstration in the capital. Many of those who worked for United Fruit were convinced it had been organized by Bernays himself.
Il y a la philosophe Marie-Josée Monzin qui a analysé le rapport entre image et pouvoir, qui estime que les images doivent laisser au spectateur la liberté d'avoir un point de vue personnel. Avec ce principe, elle affirme que la publicité ne produit pas d'images, mais des visuels qui provoquent une adhésion qu'on pourrait appeler une soumission du regard. Or, le regard est un enjeu majeur de la liberté individuelle et politique. Comme le rappelle Marie-Josée Monzin, celui qui a le monopole des visibilités a le pouvoir sur l'imaginaire et donc sur la vie de la pensée et la mort de la pensée elle-même. Et n'oublions pas que les images publicitaires sont le monopole d'un pouvoir très particulier, à savoir le pouvoir économique et marchand.
S'il y a une crise, c'est au sens où tout est fait pour diminuer la dimension critique et la dimension de crise qu'exigent les avancées de la pensée et entre autres le déploiement symbolique. Le prêt-à-penser qui est ce qu'on appelle aussi le formatage, le formatage du regard, le formatage des objets du désir, le formatage des satisfactions, la massification des propositions qui, comme toujours, on rassemble toujours au niveau le plus bas. À partir du moment où on explique à toute la société qu'on est en crise, le système qui nous écrase nous donne en même temps les moyens d'y résister.
Si on peut le relier à une action qu'on fait, généralement, c'est quand on recouvre. On fait souvent ça avec des publicités de femmes qui nous regardent et on met un type de recouvrement qui dit « tu me mates, je te formate ». Et comme ça, finalement, les gens qui arrivent en face du panneau publicitaire, ils voient la pub et au lieu de voir la publicité justement qui va peut-être les faire rêver à acheter, je sais pas, un sac Longchamp, on va dire n'importe quoi, ils voient que, en fait, cette publicité les formate si les regardent. Donc c'est très intéressant, ouais, c'est quelque chose qu'on dénonce, ouais, l'impact du regard finalement sur la publicité.
La publicité exerce un véritable pouvoir. Il faut vraiment en avoir conscience et arriver à s'en extraire, même si c'est très compliqué. C'est l'une un peu des missions de résistance à l'agression publicitaire. Vous menez depuis 30 ans, tu le disais, une lutte contre les effets néfastes de la publicité. Vous la critiquez pour sa propagation de valeurs néfastes contre le sexisme, le matérialisme, son intrusion dans l'espace public et privé, son rôle dans la consommation et les inégalités économiques. Vous dites « nous vivons dans la pub, à force nous oublions l'importance de ces messages, de ces images, nous oublions de les examiner pour les critiquer, les remettre en question ».
C'est ça. Alors nous, on trouve que, en fait, la pub, elle est omniprésente. Et c'est d'autant plus vrai dans l'espace public parce que, en fait, on est obligé. D'ailleurs, c'est pour ça que rap souvent se concentre un peu sur l'affichage extérieur. Enfin, peut-être un peu moins sur les pubs dans les boîtes aux lettres ou la télé. Parce qu'en fait, l'affichage extérieur, on sort et on est tout de suite confronté à cette publicité. Et donc, finalement, on dit que la publicité, elle est totalitaire puisqu'elle s'impose à nous. On n'a pas le choix de la recevoir ou non dans l'espace public. On défend ce qu'on appelle la liberté de réception. C'est-à-dire on devrait pouvoir se dire bah, « je me balade dans la rue et en fait j'ai le droit de choisir ou pas si j'ai envie de voir telle ou telle publicité ». Et actuellement, ce n'est pas du tout le cas.
C'est vrai que c'est une expression, un concept que vous développez, « liberté de réception ». Parce qu'on n'a pas le choix d'échapper à la présence de la publicité. J'ai lu, par exemple, on reçoit entre 1200, c'est ça, et 2200 messages publicitaires de tout type par jour.
Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est une étude quand même qui date de 2011.
Ah ouais,
donc c'est pas, ça pourrait être encore plus maintenant, notamment avec les téléphones.
Ouais.
Et en fait, si on compte même les marques, par exemple, sur les sacs à dos, ou juste si on a des baskets Nike... là, on passe à 10 000 messages publicitaires par jour. C'est énorme.
Oui, parce que nous-mêmes, nous sommes porteurs, en fait, de publicité, quoi.
Et même un cahier, finalement, il fait de la pub pour Claire Fontaine, j'en sais rien, je dis n'importe quoi.
Ouais.
Voilà, c'est...
Oui, parce qu'il y a les nouvelles stratégies dans la culture populaire, dans les clips, par exemple, qu'il y a de la publicité, dissimulée ou pas, dans les films, tout est support, en fait. Il n'y a pas un endroit, j'ai l'impression, qui est vierge de publicité. Il y a même des films qui sont des marques, Barbie, Lego, des jeux vidéo, enfin, c'est difficile d'y échapper. Comme tu dis, c'est quoi l'expression ?
Elle est totalitaire,
ouais,
et on cherche la liberté de réception.
Liberté de réception.
Voilà, liberté de réception, c'est vraiment important, puisque en fait, il y a des intrusions qui sont de... Nous, ce qu'on dit, c'est qu'elles sont de plus en plus sournoises, finalement, entre la télévision, la radio, le téléphone, Internet. Il y a aussi maintenant les tables de café, finalement, on peut voir aussi certaines publicités, ouais. Le sol. Apparemment, il y a aussi des personnes qui se font tatouer certains messages publicitaires. Et puis, quelque chose qu'on est en train de développer aussi en ce moment, c'est tout ce qui est panneaux numériques. Donc avec des publicités visuelles qui bougent, qui peuvent être différentes en fonction de l'heure de passage des gens. Ça, c'est les panneaux numériques, c'est quand même un gros sujet qui arrive à toute vitesse et qui a rempli nos rues ces dernières années.
Ouais, parce qu'on va le voir, là, ça déborde même sur le climatique. Parce que là, il faut de l'électricité, il y a une pollution visuelle, sonore.
C'est ça, c'est extrêmement consommateur au niveau énergétique, puisque ça, c'est à peu près un foyer de 4 personnes. La consommation énergétique. Donc, en fait, on trouve ça vraiment incroyable de voir que l'année dernière, par exemple, il y avait des coupures de courant pendant l'hiver. Il y avait des universités où il n'y avait plus de courant, où on ne pouvait plus mettre de chauffage. Des écoles, c'était pareil. Et en fait, on continue à allumer ces panneaux publicitaires qui ne servent à rien. Alors qu'au contraire, il y a des besoins matériels d'enfants, d'étudiants qui devraient être, auxquels on devrait répondre. Et en fait, on choisit de privilégier un certain type de support publicitaire. Voilà, et en plus, donc tu l'as dit, ces publicités lumineuses et numériques, elles sont dangereuses, puisqu'elles captent beaucoup notre attention. En fait, dès qu'on voit quelque chose qui bouge, tout de suite, notre attention est attirée, et on se dit, ok, on les regarde, et en voiture, ça a été démontré que c'est dangereux, finalement, pour la circulation. Et souvent, elles sont d'ailleurs autour de routes. C'est aussi gênant pour les enfants, hein, aussi au niveau de l'attention, mais aussi sur la faune et la flore, finalement, parce que c'est très lumineux. Notamment, maintenant, en plus, on en a à l'intérieur des magasins, des écrans qui fonctionnent à minuit. Moi, ça m'est déjà arrivé de passer rue d'Alsace-Lorraine à minuit. Et en fait, dans les magasins, on voit des pubs à l'intérieur. Donc on se dit, mais en fait, le magasin n'est pas ouvert. Pourquoi est-ce que je suis... Quel est l'intérêt de regarder une publicité à minuit pour un produit? Voilà.
Ouais, c'est une espèce d'occupation permanente. Et là, pour le coup, tu utilisais le mot totalitaire, c'est vraiment ça. C'est en permanence, il faut qu'un message soit diffusé. Et ce message-là, répétons-le, il est aux mains du pouvoir économique et marchand. C'est vraiment pour vendre. L'idée, c'est faire fonctionner cette machine qu'est le capitalisme, quoi.
What do these things want, and why are they here?
You still don't get it, do you, boy?
They have recruited the rich and the powerful.
They're running the whole show.
Wake up! They're all about you, all around you. Blinded us to the truth.
Take a look.
They are safe as long as they are not discovered.
I don't know what they are or where they came from, but we gotta stop them.
Stay away from me.
Put these on.
They have us. Look at them. They're everywhere.
C'est ça. Et en plus, le dernier ajout que je pourrais faire par rapport à ce que tu viens de dire sur les panneaux numériques, c'est qu'ils servent énormément pour cibler la population. Parce que c'est très facile de rajouter des capteurs ou des vidéos qui vont du coup repérer et décrire finalement les habitudes des personnes qui se baladent à ces heures-là. Et on peut adapter le contenu en fonction du moment de la journée et du type de personne qui va passer. Et en plus, ça sert vraiment à cibler, à ficher toutes les personnes. Donc c'est aussi un gros problème au niveau de liberté, de la réception d'un message. Et là, il y a une autre association qui s'occupe pas mal de ça, c'est la Quadrature du Net, qui fait beaucoup, qui fait un gros travail là-dessus.
Sur la réception de messages, il y a aussi ce qu'on peut appeler le confusionnisme, où des programmes liés à des influenceurs, influenceuses sont sponsorisés, sont liés à des marques, en fait, et sont de la publicité, mais passent pour être soit des sujets liés au voyage, par exemple, alors que c'est une compagnie qui va acheter. C'est de la publicité déguisée et qui passe pour de l'information. Tu peux difficilement critiquer la marque qui t'emploie.
Oui, c'est ça. La publicité, elle a vraiment compris le potentiel d'avoir des influenceurs ou influenceuses, comme tu dis, et de les utiliser pour toucher un public. Là, on parle sur Instagram, c'est quand même, ça se compte peut-être des fois en millions de personnes. Donc c'est un potentiel énorme. Et donc ça montre finalement que la publicité, elle s'insère vraiment partout et elle trouve toujours de nouveaux moyens de se produire. Et ça, c'est quand même quelque chose contre lequel on aimerait beaucoup plus lutter. Notamment parce que ça met en cause les jeunes, les enfants, qui vont être beaucoup plus touchés par ce type de campagne. Et on sait que les enfants, ils sont très sensibles à tout ça. Et en fait, avant 15 ans, les marques qu'on a l'habitude d'aimer, elles se retrouvent toute notre vie. Et derrière, on va avoir plus tendance à suivre ces marques par rapport à ce qu'on a suivi.
Ah oui, créer une espèce de fidélité comme ça.